19h-20h, conversation chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
Bonsoir tout le monde, je suis très heureux de recevoir Bernard-Henri Lévy dans mon émission pour la première fois, alors qu'on se connaît depuis très longtemps. Et c'est alors Bernard-Henri Lévy, comment le présenter? Un philosophe nouveau, mais tout de même d'un certain âge maintenant, normalien, agrégé de philo, auteur d'une quarantaine d'ouvrages et de nombreux films aussi, on va en parler. Alors Bernard-Henri Lévy, vous publiez Solitude d'Israël chez Grasset, c'est un essai évidemment sur le 7 octobre et ses conséquences, toujours dans votre style scandé, emporté, fougueux, très oral. Au fond, vous écrivez comme vous parlez. Est-ce que vous dictez vos livres ou est-ce que vous les écrivez sous la dictée d'une voix intérieure?
Non, j'écris peut-être comme j'aimerais parler. C'est plutôt ça. C'est du vrai oral dont je suis évidemment incapable à l'oral. Donc j'écris parce que je parle pas aussi bien, voilà.
Oh,
mais si, ben c'est la vérité. Je crois que c'est souvent ça, un écrivain.
Alors, ce livre est la troisième partie d'une sorte de trilogie. Il y avait l'esprit du judaïsme en 2016, l'Empire et les cinq rois en 2018, et maintenant Solitude d'Israël. Évidemment, donc c'est une sorte de point sur la situation là-bas, au Proche-Orient, après ces attaques terroristes barbares. Que vous décrivez au début du livre précisément parce que vous êtes allé là-bas le lendemain, le 8 octobre 2023, vous étiez en Israël, près de la bande de Gaza, et c'est comme un reportage de guerre ce que vous décrivez.
Oui, c'est un, enfin les premières pages, c'est mon effroi devant cette espèce d'abîme qui s'était ouvert, oui, le président de la République a dit ça, la bête de l'événement avait surgi, et c'était ça. Mais le livre, c'est pas seulement ce point, c'est aussi un zoom arrière, c'est un livre qui prétend remonter loin, expliquer pourquoi les gens disent souvent des bêtises sur Israël et sur les conflits dans lesquels Israël se voit plongé. C'est plus que le point. Et je remonte aux origines de la naissance d'Israël, à l'empilement de malentendus, d'idées fausses, de clichés qui se sont enquistés dans les esprits. J'essaie d'en faire justice. Enfin bref, ouais. c'est un livre qui est un peu plus qu'un cri de colère ou qu'un mouvement de chagrin.
De toute façon, en général, vous vous engagez dans tous les lieux où les droits de l'homme sont bafoués, et à chaque fois, vous avez une partie descriptive et une partie analytique. Vous essayez à chaque fois de comprendre le mal. C'est un peu ça votre sujet depuis votre premier livre, Bangladesh, nationalisme dans la révolution, en 1973. Déjà, à l'époque, vous étiez sur le terrain, vous étiez un reporter, vous décriviez ce qui se passait, puis en même temps, vous tentiez d'en faire une philosophie, un peu. Et qu'est-ce qui a déclenché ça en 73 et qui n'a jamais cessé depuis, désolé, mais ça fait quand même 50 ans.
Au moins 50 ans, oui. Un peu plus même. Ce qui a déclenché ça en 73, c'est comme ce qui déclenche ça à 73 ou 75 ans, c'est pareil. C'est un sentiment d'horreur, quoi, devant une situation.
Mais les gens, quand ils voient des horreurs, ils ont envie de s'en aller en courant. Et vous avez envie de plonger au cœur de l'enfer.
Oui, moi, quand je vois des horreurs, en tout cas, à l'époque, il y a un demi-siècle, je vois des horreurs, j'entends un grand écrivain, André Malraux, qui s'en indigne, qui appelle à la création d'une brigade internationale, comme dans sa jeunesse. Et j'ai en effet deux sentiments à l'époque. Un, c'est dégueulasse, ce qui se passe est dégueulasse. Et deux, on peut pas en effet rester inerte et il faut suivre ce grand monsieur, très vieux à l'époque, qui est en train de lancer cet appel pathétique mais vibrant. Il faut faire comme lui, il faut le suivre, il faut l'accompagner.
Et d'ailleurs, Malraux, c'est une de vos références centrales. Vous le citez souvent pour son engagement dans la guerre d'Espagne. Et je me demandais si vous vouliez limité un peu en étant un écrivain dans les guerres, ou si peut-être vous vouliez plutôt imiter votre père, qui a été lui aussi engagé dans la guerre d'Espagne, puis ensuite dans les forces françaises libres. C'est une émission de psychanalyse, vous pouvez y aller.
Je vois.
Vous pouvez y aller.
Non, mais avoir des modèles, c'est pas imiter. Avoir de l'admiration pour des grandes figures du passé, se sentir redevable, avoir dans la tête des sortes de mesures de ce que peut être un destin, une vie, une humanité réussie, tout ça, c'est pas de l'imitation, c'est comme des petites étoiles qui ou des grandes étoiles qui vous guident. Voilà, moi c'est plutôt ça. Parler de mon père, guerre d'Espagne et la France libre, voilà, j'y pense souvent. Je pense souvent à cet étrange jeune homme qui est parmi les tout premiers à monter à l'assaut du dernier pic de Monte Cassino. Je pense souvent à lui. Qu'est-ce qu'il avait dans la tête? Pourquoi? 18 ans, 19 ans, il s'engage. Voilà, Malraux, la même chose. Ça. Mais c'est pas de l'imitation. L'imitation, c'est stérile.
Non, mais vous avez une vision de l'écrivain engagé, pas un écrivain qui est dans son fauteuil chez lui. Vous auriez pu. Vous avez hérité d'une certaine fortune, vous auriez pu rester dans un appartement très bourgeois et vous contenter d'écrire des fictions, ce que vous avez fait d'ailleurs.
Ce que j'ai fait, ce que je referai encore, mais je pense que je m'en contenterai pas. Voilà. Écrire des fictions, évidemment, écrire du théâtre, j'ai même écrit pour le cinéma, mais je ne m'en contente pas. C'est pas l'idée que je me fais du métier d'un écrivain. Voilà.
Alors, vous avez parlé des étoiles qui vous guident, et votre premier choix musical, c'est la sonate au clair de lune. C'est logique.
Ah bah voilà.
Oui, tout à fait logique. C'était donc la sonate pour piano numéro 14, dite Clair de Lune, de Ludwig van Beethoven, interprétée par Radu Lupu au piano en 1972. Et vous me dites, Bernard Henri Lévy, que vous savez la jouer au piano. Alors là, je suis épaté.
Je l'ai. Non, attendez. Je l'ai joué, je ne saurais plus. Mais c'est. En effet, j'ai fait beaucoup de piano, j'ai étudié le piano. Et le dernier morceau que j'ai joué, pas trop mal, c'était ça. C'est la raison pour laquelle, quand vous m'avez fait appeler, j'ai choisi ça, parce que c'est le dernier morceau de piano que j'ai eu dans les doigts, que j'ai travaillé.
Encore une nouvelle facette de votre talent protéiforme, Bernard Henry. Mais on n'est pas là pour parler de votre carrière de pianiste, mais pour parler de Solitude d'Israël aux éditions Grasset. Alors, on vous décrit parfois comme un ministre bis des affaires étrangères. C'est vrai que vous non seulement vous allez sur le terrain de toutes les tragédies, mais en plus, vous cherchez toujours à peser sur les interventions françaises, peser sur le pouvoir en place. Pourquoi ? Et est-ce que vous aimez cette étiquette ?
Non, je n'aime pas cette étiquette. En revanche, lorsque j'en ai le pouvoir, lorsque c'est possible, en effet, je trouve important d'alerter les autorités de mon pays ou d'un autre sur ce que j'ai vu, bien sûr. Moi, je suis pas un journaliste. Il y a des journalistes bien meilleurs que moi qui font ce métier-là de manière bien plus professionnelle que je ne le fais. Je suis un témoin engagé. Et quand je fais du journalisme, c'est pour agir, pas seulement pour raconter. Voilà. Alors, quand je peux agir, je le fais. Il y a mille manières d'agir. Agir, ça veut dire rassembler du monde à la salle Pleyel, comme je l'ai fait il y a une dizaine de jours, et raconter ce que j'ai vu en Israël et pourquoi cette solitude d'Israël me semble insupportable. Mais agir, ça peut être aussi, si on le connaît, téléphoner à parler à un responsable d'une grande démocratie. C'est les deux.
Vous l'aviez fait avec François Mitterrand pour qu'il reçoive des Bosniaques. Vous l'avez fait aussi avec Nicolas Sarkozy pour l'intervention en Libye. Et vous continuez. Mais alors là, pourquoi un livre sur Israël et pas un film ? Récemment, vous avez réalisé 3 films sur la guerre en Ukraine. Pourquoi l'Ukraine en juin 2022, Slava Ukraini en décembre 2022 et l'Ukraine au cœur en septembre 2023 et à chaque fois de plus en plus difficilement, parce que la guerre se passe de plus en plus difficilement là-bas. Et alors pourquoi est-ce que tout d'un coup, vous n'êtes pas allé avec une caméra en Israël ? Qu'est-ce qui détermine votre choix ?
Justement, vous êtes suffisamment bon historien de la littérature vous-même pour savoir que c'est des questions qu'on ne se pose pas vraiment. Un écrivain ne se demande pas, coup-ci, est-ce que c'est une pièce de théâtre ou cette fois-ci, ça s'impose. Vraiment, il n'y a pas d'autre réponse. Quand je me trouve en Ukraine, au lendemain de l'invasion par la Russie, il me semble évident que ce que je peux faire de mieux, ce que je peux faire que personne d'autre ne fera, c'est en effet aller en première ligne et raconter la guerre d'Ukraine. Et puis après, de le faire une deuxième fois. Puis après, quand je comprends quand j'apprends et que je comprends que je vais pouvoir voir des choses que très peu de journalistes voient, parce que pas parce qu'ils sont moins désireux de le faire, mais parce qu'ils n'ont peut-être pas le même degré de confiance ou d'intimité que je peux avoir avec les dirigeants ukrainiens. Donc, je sais que je peux faire ça. Je me dis, ce serait mal de pas le faire. Donc, il faut faire ça, il faut filmer. Là, je me trouve en Israël le 8 octobre. Je suis dans les kibboutz ravagés, martyrisés le 11-12 octobre. Je suis avec les familles d'otages, dont je recueille sûrement parmi les premiers témoignages. Et là, je ne sais pas comment vous dire, je leur fais un serment, je leur fais une promesse. Je leur dis, tout ça, je ne vais pas l'oublier, et je vais faire en sorte qu'on n'oublie pas. Il y aura un rouleau compresseur qui va probablement essayer de balayer vos récits, vos pauvres histoires. Il y aura une machine, une gomme à effacer l'immondice humaine, comme disait Louis Aragon. Eh bien, moi, je ne vais pas être dans ce coup-là. Je vais faire en sorte que la gomme ne marche pas et je vais raconter. Donc, j'ai commencé à prendre la plume. J'ai commencé à écrire.
Il y a une autre raison, peut-être. C'est que les horreurs du 7 octobre 2023 ont été documentées par les terroristes. C'est une des premières fois qu'une telle chose se passe, c'est-à-dire qu'ils ont filmé les meurtres, les tortures, les horreurs, et les ont postées sur TikTok, sur Instagram. Et ça, c'est quelque chose d'absolument complètement nouveau.
Relativement nouvelle, c'est-à-dire que ça apparaît vraiment avec l'islamisme radical contemporain. La première fois où ça s'est passé, je connais bien cette histoire, j'y ai consacré un livre, c'est avec la décapitation de Daniel Pearl. Oui. Voilà. Vous aviez écrit d'ailleurs, je m'en rappelle, un bel article là-dessus dans le magazine où vous officiez à l'époque. Et moi, j'étais parti au Pakistan et j'avais écrit j'avais mené cette enquête et écrit ce livre. Et ce qui m'avait déclenché, c'était la vidéo que les Al-Qaïda avaient tenté de poster. À l'époque, c'était moins facile qu'aujourd'hui. La famille avait réussi à s'y opposer et parce qu'il y avait tant d'obscénité dans cette vidéo où on voyait un jeune homme, un jeune journaliste, solaire, magnifique, beau, la tête tranchée, et en plus, on tranche pas une tête comme ça, quoi, ça va pas aussi vite qu'en le disant. Donc c'est la première fois. Puis après, il y a eu l'État islamique, la deuxième étape de l'islamisme, hein, première, Daniel Pearl, c'est Al-Qaïda. Deuxième étape, l'État islamique. Pareil. Production de vidéos mises sur YouTube avec des hommes agenouillés sur une plage en combinaison orange et décapités à la chaîne.
Oui, ou un pilote brûlé vif dans une cage.
Dans une cage, voilà, rôti dans une cage. Exact. Et troisième étape, après Al-Qaïda, après Daesh, c'est le Hamas. C'est la même histoire qui se continue. Et là, il y a eu une espèce de dissémination du procédé. Mmh. Et tous ces assassins arrivaient sur des deltaplanes, à trois sur des motos, avec des GoPro fixés à leur casque. Ils ont tout filmé et ils ont brandi ces images comme des trophées. Alors d'abord, ils les ont envoyés à leurs parents en disant « Regarde, maman, j'ai... tuer trois juifs, sois fier de moi. » Et puis après, ils les ont postés sur les chaînes Telegram, souterraines, underground du Hamas. Et puis, ils les ont mis sur TikTok. Donc ça, cette obscénité, cette façon d'assumer le crime et d'assumer l'horreur, cette aisance, cette façon d'être à l'aise avec la barbarie absolue, oui, c'est tout à fait nouveau. Les nazis faisaient
l'inverse. Les nazis faisaient disparaître les preuves,
ne donnaient pas d'ordre écrit, et ainsi de suite. Nous savons tous ça. Staline faisait pas. Staline, il faisait vrombir des camions, des moteurs de camions devant la Loubianka pour qu'on n'entende pas les cris des torturés. Eh bien, Al-Qaïda, Daesh, Hamas font l'inverse. Ils se prévalent de leurs crimes, ils les produisent, ils les exposent.
Je vais vous demander de lire un petit extrait de Solitude d'Israël que j'ai choisi pour qu'on puisse ensuite poursuivre la discussion.
Il n'y a pas de question plus obsédante pour l'humanité moderne que celle du mal que l'homme peut faire à l'homme. Il n'en est pas non plus qu'elle est en Occident chassée avec plus de méthode du champ de ses préoccupations. Ce fut l'œuvre des religions, enseignant que le mal sera racheté et qu'il ne faut pas s'arrêter à l'idée que le monde ne serait qu'une vallée de larmes. Ce fut l'œuvre de la philosophie, dont l'histoire peut se lire comme un effort pour trouver la juste perspective, depuis laquelle, quand on parvient à s'y placer, le mal semble un simulacre. Platon, une illusion d'optique, Descartes, la courte vue d'une monade fermée à la contemplation du tout, Leibniz, un moment d'une dialectique travaillant à la transfiguration du tas de petites misères dont nous nous faisons toute une histoire, Hegel. Et puis vinrent les modernes qui, pourtant instruits par les deux guerres mondiales venues en rafale, rivalisèrent d'ardeur pour nous convaincre eux aussi que le mal était chose passée. Les uns, anciens combattants de la Première Guerre, inventèrent la fiction d'un socialisme venant à bout des contradictions qui généraient le malheur des hommes. Les autres, survivants de la deuxième, crurent en un lendemain heureux où l'on tirerait les leçons de la catastrophe qui avait failli emporter l'Europe et le monde. D'autres appelèrent fin de l'histoire un monde bonasse et apaisé où le capitalisme mondialisé permettrait à chacun d'ajuster ses désirs et besoins à ceux de son prochain. Jusqu'à cette séquence demeurée stupéfiante, où, au terme de la transformation du mal en maladie et de la politique en clinique que je dénonce depuis la barbarie à visage humain, les heureux du monde convainquirent les damnés de se calfeutrer tous ensemble face à un virus décrété ennemi commun et ramenant au second plan le mal que l'homme fait à l'homme.
Merci beaucoup. Alors là, on est donc dans un salon très luxueux, chez La Pérouse, dans un endroit feutré, un boudoir. Vous avez votre chemise blanche, comme d'habitude, et moi, j'ai une belle chemise bleu marine. Et pourtant, vous dites que on n'est jamais à l'abri, quoi. On n'est jamais à l'abri. Le mal est là, et j'arrive pas à savoir, en refermant Solitude d'Israël, franchement, j'arrive pas à savoir si vous êtes pour la guerre ou pour la paix. Parce que il y a des pages où vous êtes vraiment va-t-en-guerre, très, très en colère et très révolté, à juste titre, par les horreurs du 7 octobre. Mais aussi, il y a ce dernier chapitre, très utopique, très, voilà, en faveur d'un monde apaisé, d'un monde où on y arriverait enfin, où enfin on pourrait s'entendre sans se brûler vif. Alors, répondez-moi, dans quel camp êtes-vous ?
Dernier chapitre, il ne dit pas exactement ça. Mais enfin, si je devais, enfin, va-t'en guerre, va-t'en paix, évidemment que je suis un va-t'en paix. Mais je ne suis pas naïf. On ne va pas t'en paix sans envisager la guerre, et sans répondre, et sans être en tout cas attentif à ceux qui, eux, vont en guerre. Voilà, on ne peut pas aller en paix seul. C'est ça la réalité. Moi, évidemment, vous savez, vous l'avez dit tout à l'heure, en effet, depuis ma jeunesse, j'ai vu un peu la guerre tout de même, et je la déteste. Je sais qu'elle est monstrueuse. Je sais que il y a toute une mythologie autour de la guerre, les écrivains de la guerre qui disent que c'est un moment où les hommes se dépassent, atteignent leur je ne sais pas quoi, leurs limites, se grandissent. Je ne crois pas du tout ça. Je crois que c'est une école, au contraire, de la petitesse humaine. C'est une école parfois du courage, bien sûr, mais souvent de la veulerie, quoi. C'est horrible, la guerre. Donc, j'aime pas ça. Mais le fait est, là, Israël, par exemple, qu'est-ce que je vous dise ? Israël vivait dans l'illusion d'une paix perpétuelle, bien à tort. Et puis, il y a des gens, des barbares, des nazis, qui envahissent le pays, qui tuent tout ce qui leur tombe sous la main, qui violent les femmes et les exécutent, qui les exécutent pendant qu'un autre les viole, et ainsi de suite. Donc, on ne pouvait pas ignorer ça. Et quand on ne l'ignore pas, on se dit que malheureusement, il faut mettre des contreforts, des digues, et comme disaient les écrivains des années 30, quand ils voyaient monter le fascisme, il faut contre-attaquer. Hein, il y a des grands... vous savez cela.
C'est la même chose en Ukraine. Hein.
Georges Bataille, montée du fascisme, 1934, il n'y a pas plus pacifiste que les écrivains, les dissidents du surréalisme ralliés à Georges Bataille. Ils sont d'ailleurs les héritiers du plus jamais ça d'après la guerre de 14. Enfin, ils pensent qu'on ne verra plus jamais la guerre. Puis ils voient bien qu'il y a en Allemagne une espèce de bête comme ça qui se réveille. Ben, qu'est-ce qu'ils font ? Ils décident de baisser les bras, de dire on va cultiver notre jardin en attendant les barbares ? Non, ils disent on va s'opposer à eux et contre-attaquer. Et c'est un des très beaux moments de l'histoire de l'intelligentsia française des années 30.
Votre second choix musical, c'est Purcell, Cold Song, chanté par le baryton anglais Christopher Purvis.
Cold.
Je suis toujours avec Bernard-Henri Lévy, c'était Purcell, Cold Song. Et juste après ces quelques messages, nous allons enfin résoudre tous les problèmes de violence dans le monde.
Karina Septi, vous êtes DG de Robert Walters Management de Transition, un succès depuis 20 ans.
Chaque entreprise est amenée un jour à accélérer sa transformation, gérer une crise ou remplacer sans délai un dirigeant. Chez Robert Walters Management de Transition, nous déployons des managers expérimentés pour répondre à vos besoins ponctuels et urgents. Chaque contexte est unique, parlons-en.
Waouh, c'est trop beau! C'est la première fois que je vois ça!
97% des enfants accompagnés par le Fonds de dotation Culture pour l'enfance n'ont jamais visité un musée. Faire un don ou un leg à Culture pour l'enfance, c'est donner une chance de faire vivre la culture et une pratique artistique, danse, chant lyrique, art plastique à un enfant en situation de grande précarité sociale, de handicap ou malade. Et surtout, de le faire rêver. Retrouvez nos actions sur culture-enfance.org.
Gabriel Fauré, l'intégrale des œuvres pour piano par Lucas Debargue. Des romances aux nocturnes et barcaroles, en passant par les impromptus, les 68 pièces magistrales de cet enregistrement exceptionnel se révèlent être un événement majeur de la littérature pianistique. Lucas Debargue, Fauré, un véritable sommet, au disque chez Sony Classical.
Le rendez-vous classique de la scène musicale, jeudi 25 avril. Rendez-vous à la scène musicale pour un ciné-concert exceptionnel, Le Fantôme de l'Opéra de Rupert Julian. Au piano, Jean-François Zigel sublime ce chef-d'œuvre du cinéma muet. Frissons garantis. Le Fantôme de l'Opéra, jeudi 25 avril à l'auditorium de la scène musicale. Réservation sur lascenemusicale.com.
Pour son 50e anniversaire, le Concours international de piano de Cleveland retrouve ses racines parisiennes, salle Cortot. Des pianistes d'excellence venus du monde entier seront en compétition lors du premier tour du concours. Chacun des 32 candidats donnera un récital d'une demi-heure. En partenariat avec la salle Cortot à Paris, ces épreuves ouvertes au public et gratuites auront lieu du 1er au 5 avril. Programme détaillé du Concours international de piano de Cleveland sur pianocleveland.com.
Dans le cadre des rencontres musicales de Cortot, l'École normale de musique de Paris poursuit ses masterclass avec une soirée exceptionnelle autour du quatuor à cordes. Le brillant Novo Quartet et des membres du quatuor Modigliani joueront le quatuor opus 59 numéro 3 de Beethoven. Le Novo Quartet fait partie du nouveau programme élite de l'École normale de musique de Paris, accélérateur de carrière pour talents prometteurs. Masterclass et concerts, lundi 25 mars à 20h, salle Cortot à Paris.
Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
Va où la rivière te porte, c'est la seule façon de vivre. Quand Victoria rencontre Will, sa vie s'illumine. Mais leur amour est impossible et Victoria se retrouve seule face aux épreuves. Portée par ses souvenirs, enveloppée par les montagnes de l'Ouest américain, elle construit sa liberté et son bonheur. Va où la rivière te porte est un roman émouvant et lumineux qui vous envoûtera. Va où la rivière te porte de Shelley Reid, le coup de foudre d'un million de lecteurs. À découvrir en librairie aux éditions Robert Laffont.
Jusqu'à 20h, conversation chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
Je suis toujours en compagnie de Bernard-Henri Lévy dans Conversation chez La Pérouse. C'est un plaisir. Nous parlons de choses très graves, très, très violentes, mais nous sommes pacifiques tous les deux pour le moment. Alors, à propos du 7 octobre, le Mossad a été assez nul sur cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous en parlez, hein, vous dites que peut-être il ne voulait pas voir la menace.
Oui, puisque vous êtes écrivain comme moi, ça s'appelle la lettre volée.
Oui, de Poe.
D'Edgar Poe. Oui. La chose est là, sur la table, mais elle est tellement évidente qu'on ne la voit pas. C'est ça qui s'est passé en vrai avec le 7 octobre. C'est-à-dire que le Hamas a préparé son coup, d'abord depuis très longtemps, hein, c'est pour ça que les gens qui disent c'est parce qu'il y a eu trois mauvaises actions commises par Israël l'avant-veille sont grotesques. C'est une chose qui s'est préparée pendant des mois, sinon des années. Et pendant des années, pendant deux ans probablement, le Hamas a préparé son histoire à ciel ouvert.
Et oui, ils s'entraînaient, bien sûr. Oui.
Ils s'entraînaient, ils avaient des répliques des kibbutz israéliens en maquette, etc. Et tout ça se faisait au vu au su de tout le monde. Ce que les gens pensaient, probablement, c'est que c'était tellement évident que ça ne pouvait pas advenir, numéro un, et ils pensaient que, dans le meilleur des cas, que c'était à usage interne pour ne pas désespérer le Billancourt local, c'est-à-dire que pour que les militants du Hamas à qui on avait vendu la haine des Juifs pour l'éternité, qui se disent « ça va bientôt arriver ». Mais personne ne pensait que cela se produirait. C'est tellement énorme. Et c'était en plus tellement évident que c'était à la lettre incroyable. Et le propre des grands événements, ben c'est ça. C'est qu'ils sont tellement gigantesques, tellement hors des paramètres connus. C'est des signes noirs, des signes comme l'oiseau, hein, comme disent les économistes. C'est des événements qui sont incalculables. Et donc, on ne les voit pas. Quand un événement est incalculable...
Oui, comme le 11 septembre 2001. Ça paraît quelque chose de très simple à faire, et pourtant...
Et pourtant, personne n'y avait pensé. Oui. Il y a un homme qui s'appelle Khalid Sheikh Mohammed, qui était un des chefs d'Al-Qaïda, qui est encore vivant d'ailleurs, qui est à Guantanamo, qui était un des derniers pensionnats de Guantanamo, qui a eu cette idée simple et horrible, à laquelle personne n'avait songé. Et comme personne n'y avait songé, personne ne l'a vu venir, et ça a plongé le monde dans un abîme de stupeur. Comme ça, oui. Abîme de stupeur et d'effroi, le 7 octobre.
Alors, je précise que dans votre livre, et c'est là où vous êtes assez courageux, vous êtes toujours courageux d'ailleurs, mais enfin là, particulièrement, parce que vous abordez la question taboue du colonialisme d'Israël. Il y a un chapitre qui s'intitule comme ça, « Colonialisme, dites-vous ?» point d'interrogation. Récemment, Judith Butler, une grande intellectuelle féministe, a déclaré que le 7 octobre, c'était un acte de résistance armée. Donc finalement, comme en Algérie française. Or, vous êtes né là-bas, en Algérie. Donc vous avez vu ça, un peuple qui se libère par des atrocités. Alors, quelle différence y a-t-il entre, finalement, la décolonisation en Algérie et celle de la Palestine?
Mais la différence, c'est qu'Israël n'a jamais été une colonie de quiconque. Une colonie de qui? L'Algérie, que je n'ai pas connue, où je suis né, mais que je n'ai pas connue, mais enfin, je sais comme tout le monde, c'était en effet une colonie de la France, ok? Occupée par la France, avec des armées qui ont conquis les territoires. Ça, c'est une colonie. Israël, de qui est-ce la colonie? Quels sont les colons?
Il y a des Juifs depuis... 3000 ans.
Il y a des Juifs depuis 3000 ans. Deux, il y en a toujours eu. Trois.
Il y en a beaucoup qui sont arrivés après la guerre.
Oui, donc avant la création de l'État, oui. Mais aussi avant la guerre, avant, après, etc. Et surtout, c'est une nation qui s'est conquise contre le pouvoir colonial de l'époque.
Parce que c'est la Grande-Bretagne.
Ben oui, la Grande-Bretagne, c'était elle qui était le pouvoir colonial. C'est elle qui était l'Empire. Et avec le mandat britannique. Donc, les Israéliens, c'est un petit peuple d'une petite nation qui a conquis son indépendance à la force des baïonnettes contre un pouvoir colonial qui ne voulait pas en entendre parler. C'est ça la vérité. Lisez les magnifiques reportages de Joseph Kessel, qui sont disponibles en livre, qui sont des beaux livres de Kessel, sur la guerre d'indépendance d'Israël. Il raconte ça très très bien. Des militants...
Je vous demande ça parce que vous en parlez et aussi parce que beaucoup de jeunes... Mais parce que cet argument à la bouche, Israël colonise la Palestine.
Mais
colonie de la Palestine. Oui, ben ça, c'est encore autre chose. Oui, alors là, c'est encore plus compliqué. Non, ce qu'ils disent en général, c'est colonie de la, c'est avant-poste de l'impérialisme. Alors, avant-poste de l'impérialisme anglais à sa naissance, c'est débile, puisque c'est le contraire, encore une fois, arraché à l'impérialisme. Et puis, avant-poste de l'Amérique aujourd'hui, ce qui est faux aussi, ce que les gens ne savent pas, c'est que, par exemple, on dit toujours l'Amérique vote automatiquement pour Israël à l'ONU. C'est vrai ces dernières années. C'est vrai depuis, en vérité, le 11 septembre. Depuis le World Trade Center, ça, c'est vrai. Les Américains, touchés dans leur chair par le terrorisme, là, se sont sentis solidaires d'Israël jusqu'à maintenant. Mais avant 2001, dans les 20, 30, 40 années qui ont précédé, c'était pas du tout automatique. Les États-Unis s'opposaient une fois sur deux au Conseil de sécurité des Nations Unies à Israël. Donc, c'est faux à tous égards. Israël n'étant... Et il y a quelqu'un que ça mettait en fureur, et je raconte ça dans le livre, je rapporte nos conversations, quelqu'un que j'aimais infiniment, qui a été un de mes très très chers amis, et que ça mettait dans une colère noire, c'était Claude Lanzmann. Lanzmann, le grand intellectuel, auteur de Shoah, compagnon de route de Jean-Paul Sartre, qui savait, lui, ce que c'était que le colonialisme et l'anticolonialisme. Il avait été l'ami de Frantz Fanon, le grand théoricien de la révolte des colonisés contre le colonialisme. Bon, c'était l'ami de Lanzmann. Mais Lanzmann, cette idée-là, le mettait dans des fureurs, mais homériques, dont il avait le secret, parce qu'il savait bien que c'était une espèce de scie, de cliché débile, voilà.
Oui, d'ailleurs, vous racontez aussi vos rencontres avec Albert Cohen, Romain Gary. Bon, ça, on peut pas tout dire du livre, mais c'est vrai que c'est assez clair. Bon, cela dit, vous dites aussi que Israël, c'est que la taille de 3 départements français, c'est 7 millions d'habitants, mais aussi, dont 1/5 d'Arabes, hein, 1/5 d'Israéliens sont d'origine arabe. Il y a 20 millions de Juifs sur Terre, il y en a 2 milliards de musulmans. Donc, c'est vrai que c'est quand on y pense, c'est un tout petit endroit. D'ailleurs, vous avez rencontré Ariel Sharon qui vous dit en 2005, Gaza, en fait, c'est 10 fois Dubaï. C'est tout.
Sharon me dit une chose, en effet, qui est tellement juste. C'était un des... Le Sharon finissant, hein, qui venait d'évacuer Gaza, de libérer Gaza, si je puis dire, et qui allait mourir bien, enfin, qui allait être frappé bientôt par l'attaque cérébrale dont il ne se remettrait jamais. Et il me dit deux choses. Il me dit, vous savez, bon, Gaza, c'est pas si petit que ça. Si les Palestiniens en font bon usage, ça peut être 10 fois Dubai City. Et Israël, c'est pas si grand que ça. Tout petit aussi. C'est une petite bande de terre encore toute sanglante, toute dégoulinante du sang juif versé par l'Occident et le reste du monde pendant des siècles. C'est 2 départements français et demi sur lesquels le peuple juif essaye de bâtir vaille que vaille depuis 50 ans. Un petit État-nation. Il me dit les deux. Gaza, c'est pas si petit, et Israël, c'est pas si grand.
Alors, je voulais vous faire entendre un orchestre symphonique qui tente de faire la paix entre Israéliens et Palestiniens, puisqu'il est composé d'autant de musiciens israéliens que de musiciens palestiniens. C'est cet orchestre créé par Daniel Barenboim et Edouard Saïd depuis 1999, qui s'appelle le West Eastern Divan Orchestra. Thank you. Bon, voilà, c'est juste pour le principe de faire entendre quelque chose de qui est possible. Les musiciens, ah, les
oui,
deux
c'est plus qu'un principe,
nationalités
c'est même,
capables.
De... C'est même un impératif, c'est, oui, c'est magnifique.
Oui, oui. C'est Tchaïkovski, symphonie numéro 4, et c'était à Salzbourg en 2007. Donc pourquoi est-ce que les musiciens, ils y arrivent, et pas les citoyens? Pourquoi est-ce que les États, enfin les États, il n'y en a qu'un qui existe, l'autre pas encore, mais on le souhaite. Vous le souhaitez, vous, qu'il y ait un État palestinien?
Mais naturellement, je le souhaite depuis mon premier voyage en Israël en 1967, bien avant le début.
Le début de votre carrière d'écrivain.
L'épisode évoqué au début de nos conversations au Bangladesh. Bien sûr, je le souhaite. Mais, un. Deux, les Israéliens, tantôt dans une très grande minorité, tantôt dans une large majorité, ça dépend des moments, l'ont souhaité et le souhaitent. Les Israéliens, avant le 7 octobre, juste avant, dans les grandes manifestations anti-Netanyahou qui avaient dans les rues de Tel Aviv et Jérusalem, le souhaitaient, la question palestinienne était en train de revenir en tête, en tout cas dans le champ des préoccupations des Israéliens. Il y en a un qui ne veut pas l'État palestinien, qui n'en veut à aucun prix, enfin un, c'est le Hamas, et c'est ceux qui soutiennent le Hamas, c'est-à-dire à la fois... La pauvre Judith Butler et la puissante Iran. Eux ne veulent pas d'un État palestinien. Eux, ils veulent autre chose. Le Hamas, l'Iran, Erdogan, quand il soutient le Hamas. Enfin, bref, toute cette espèce de constellation, pour le coup, d'astres noirs qui gravitent autour du Hamas. Leur idée, c'est de débarrasser la région d'Israël, d'en faire une partie du monde libre, Judenreich, libre de juifs, et de faire là un nouvel État, voilà, qui accueillerait éventuellement des Juifs en citoyens de seconde zone. Ils veulent pas d'une coexistence des deux États. C'est eux le problème. Ces gens-là.
On enchaîne avec le jeu de cette émission. Il y a un jeu, ça s'appelle Devine tes citations. Je vous lis des citations de vous, des phrases que vous avez écrites dans un de vos livres. Vous devez deviner dans lequel vous avez écrit ceci. Je peux faire toutes les mises au point possibles et imaginables. Je ne ferai qu'aggraver mon cas de salaud de bourgeois qui ne connaît rien à la question sociale et qui ne s'intéresse aux damnés de la terre que pour mieux faire sa publicité.
Ennemi public.
Ennemi public, c'est dans votre échange
avec Michel Houellebecq, Flammarion Grasset, 2008.
Bravo, bonne mémoire. C'était, oui, il y a une vingtaine d'années. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne vous foutez pas un peu plus de ce qu'on pense de vous qu'à l'époque? J'ai l'impression que oui.
Vous savez, oui et non. Je m'en suis toujours plus foutu qu'on ne le croit, et je m'en fous peut-être un peu moins que je ne le dis. Voilà, disons les choses ainsi.
Parce que vous aviez aussi publié un livre qui s'appelait Comédie, que j'ai beaucoup aimé, qui était un dialogue entre vous et votre marionnette.
Voilà.
Au fond, vous souffrez de cette image... Mais en même temps, vous l'entretenez aussi, alors on a du mal à comprendre.
Oui, ce qui veut dire que j'en souffre pas tant que ça. Non, comédie, c'est autre chose. Comédie, c'était une manière de dire que, quitte à dire du mal de moi, je suis quand même celui qui peut le dire le mieux, et qu'il fait le moins mal, en tout cas. C'était ça, l'exercice de comédie.
Une autre phrase de vous, vous devez deviner où vous avez écrit ceci. L'hôtel du Grand Miroir est l'une de ses pensions bruxelloises.
Les derniers jours de Charles Baudelaire, ouais. Grasset, 1988.
Exactement. Je finis la phrase, c'est la première du livre. Hein. L'hôtel du Grand Miroir est l'une de ses pensions bruxelloises, modestes et faussement cossues, qui jouissent d'une certaine réputation chez les négociants français de passage. Le style est très classique. Vous aviez, alors en tant qu'intellectuel, philosophe, vous avez toujours ce style flamboyant, lyrique. Parfois, certains peuvent le trouver un peu répétitif. Enfin, voilà, vous aimez la fièvre quand vous écrivez de la philo. Mais en revanche, quand vous écrivez un roman, alors là, c'était abouti, hein, mais c'était très à l'ancienne, quoi. Voilà, l'hôtel du Grand Miroir est l'une de ces pensions bruxelloises. Alors, comment expliquez-vous ça? Quand vous écrivez de la fiction, vous êtes plus corseté que quand vous pensez?
J'ai pas l'impression. Moi, j'ai l'impression, au contraire, que j'écris de la même manière. Moi, je pense même que j'écris quand je fais des films et que c'est presque... Enfin, la plume est différente, mais l'encre est la même. Alors, à plus forte raison, dans les romans et les essais, je crois pas, non. Ça, c'est une phrase qui pourrait se trouver dans Solitude d'Israël. Non, je crois qu'on écrit toujours pareil, vraiment.
Alors,
quoi qu'on fasse.
Une autre phrase.
Parce que l'écriture, c'est la voix.
Oui, oui, voilà. Oui, si vous voulez. Mais
le
moi,
style, c'est l'homme et l'écriture, c'est la voix.
En tout cas, les derniers jours de Charles Baudelaire fera un bon film. C'est dommage, vous devriez y penser. Autre phrase. Quant à lui, qui se voulait indifférent aux humeurs du ciel, il s'était réfugié dans son bureau afin d'étudier les rétractations de Saint-Augustin tout en rédigeant un article véhément pour le Calcutta Daily.
Ça, c'est pas une fausse nécrologie. Ah non, que j'ai écrite pour Jérôme Garcin.
Égoïste. Non, c'est un piège encore pire, plus compliqué. En fait, c'est pas de vous.
Voilà, c'est ça.
C'est une phrase de Jean-Paul Antoven.
Ah oui, d'accord.
Dans son livre Ce que nous avons eu de meilleur. Mais enfin, je trouvais que c'était un beau portrait de vous, le type qui se réfugie dans son bureau afin d'étudier Saint-Augustin tout en rédigeant un papier véhément pour le Calcutta Daily.
Mais c'est de moi qu'il parle.
C'est de vous qu'il parle. Il s'appelle Lewis dans le livre.
C'est ça. Bah, c'est
Lewis, bon,
vous voyez que Jean-Paul me connaît bien. Puisqu'il a presque failli me faire croire à une phrase de moi. Oui, c'est un joli piège, Frédéric Beigbeder.
Alors, une autre phrase. Ma loi en littérature, c'est « après vous ».
Oui. Ça, j'ai dû dire ça plusieurs fois.
Une fois à moi, dans Conversation d'un enfant du siècle. En 2009, c'était un entretien.
Et c'est repris dans Récidive.
Ah, voilà. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça explique pourquoi vous avez beaucoup écrit sur Baudelaire, Sartre, Daniel Pearl, les guerres oubliées.
Et surtout, voilà, surtout les
guerres oubliées. Vous n'êtes pas si narcissique que ça, finalement.
Voilà. Ça veut dire que oui, que j'entends ça. Les gens disent narcissique, etc. Et je comprends pas bien, parce que j'ai vraiment passé beaucoup de temps de ma vie à m'intéresser à d'autres que moi par rapport aux autres écrivains, honnêtement.
Oui.
Voilà.
Mais il y a d'autres que vous, surtout, et aux damnés de la Terre, aux guerres oubliées.
À des gens très loin de moi, oui. qui vraiment ne sont pas mon genre. J'ai passé mon temps, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à ça.
Pour quelqu'un de narcissique, vous êtes souvent sorti de votre confort. Voilà. C'est ça.
En tout cas,
personnellement, je suis resté les 40 dernières années dans ce salon. Pendant que vous crapahutiez des endroits neigeux et bombardés. Voilà. C'est votre folie à vous. Alors, tiens, j'ai une question de quelqu'un. Vous devez deviner. Faut mettre le casque et deviner qui c'est qui vous parle.
Les engagés de la politique veulent bien qu'on agisse ou qu'on tue à leur place, mais à la condition qu'ils gardent le droit de dire que ça n'est pas bien.
C'est quand même terrible comme phrase, ça. C'est quelqu'un qui dit que les engagés de la politique veulent qu'on tue à leur place, mais à condition de garder le droit de dire que c'est pas bien.
Je comprends pas ce que ça veut dire.
Oui, c'est bizarre. Et pourtant, c'est Albert Camus.
Oui, mais je comprends pas ce que ça veut dire.
Bah, en gros, c'est un peu le truc.
Oui, oui,
le truc
je vois
qu'on
bien.
Vous sort tout le temps. Oui. On vous sort tout le temps que comme vous, par exemple, vous demandez plus de munitions pour l'armée ukrainienne. Mmh. Donc, ça veut dire que ça va tuer des gens.
Non, je pense que ça va éviter qu'on tue des gens. Parce que c'est pour ça que cette phrase, c'est dommage que j'aime. Camus est un grand monsieur et un très grand écrivain. Mais c'est le contraire. Si on donne des munitions aux Ukrainiens, c'est pour que Monsieur Poutine comprenne, qu'il a aucune chance, comme on dit dans les westerns, qu'il faut qu'il s'arrête, qu'il faut qu'il recule, donc qu'il y ait moins de morts.
Alors, par exemple, est-ce que vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron pour ne pas exclure l'envoi de troupes au sol en Ukraine ?
Mais je suis d'accord pour deux raisons. C'est à la fois d'un grand courage, ce qu'il a dit là, et d'une absolue évidence. Je suis d'accord parce qu'abandonner les Ukrainiens est atroce. Je suis d'accord parce que si on abandonne les Ukrainiens, ça sera le tour du reste, d'un bout du reste de l'Europe après. Et je suis d'accord surtout parce que menacer, maintenir cette ambiguïté, c'est la seule façon que la guerre s'arrête. Vous savez, les types comme Poutine, les dictateurs, c'est des gens qui ne sont forts que de la faiblesse de leurs adversaires. Quand ils sentent de la faiblesse en face, qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'inclinent respectueusement ? Bien sûr que non. Ils avancent. C'est comme ça que ça
D'ailleurs,
se passe.
Vous faites dans Solitude d'Israël un rapprochement entre la guerre d'Ukraine et la guerre d'Israël actuelle.
C'est pas la même chose. Mais l'Ukraine et Israël sont dans le grand jeu du monde aujourd'hui, ce grand jeu atroce, sont du même côté de la barricade. C'est tellement évident. Et d'ailleurs, je le disais aux Israéliens depuis le début de la guerre en Ukraine, de la guerre contre l'Ukraine. C'est les mêmes valeurs, c'est le même combat, c'est la même bataille pour la liberté. Il y a le même ennemi en face, Poutine. Poutine qui envahit l'Ukraine et qui célèbre le Hamas. Hein, ça, les gens, comme on vit dans un monde bizarre de d'âmes momentanées, hein, des âmes minces momentanées, les gens oublient d'un jour sur l'autre. Le Kremlin a reçu avant le 7 octobre, le Kremlin, des gens du Hamas, et il a re-reçu avec les honneurs tapis rouge, tambour et trompette, les deux mêmes, les gens du Hamas, quelques jours après. Oui. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Bien sûr que c'est, il y a une fraternité évidente des ébranlés, pour parler comme un grand dissident tchèque de ma jeunesse, entre les Ukrainiens et les Israéliens, et il y a une fraternité noire des tyrans entre eux, les ayatollahs iraniens, Poutine, Erdogan, probablement les Chinois et les dictateurs du monde arabe.
Vous appelez les cinq rois. C'est un peu comme le côté obscur de la force dans la guerre des étoiles. C'est ça, c'est ce monde.
Ben oui, les lumières, ça existe. Le monde des lumières, la philosophie des lumières, tout ça existe. Et si les lumières existent, c'est qu'il y a une partie du monde qui, elle, est obscure. Et il y a de l'obscurantisme, bien sûr. L'Iran, c'est l'obscurantisme. Les pays où on traite les femmes comme des esclaves, c'est le côté obscur du monde, c'est vrai.
Je vous ai demandé de choisir un morceau de jazz. Et vous avez voulu envoyer un message au monde. C'est « Don't blame me ». Voilà, « Ne me blâmez pas » de Thelonious Monk. Je suis toujours en compagnie de Bernard-Henri Lévy pour Solitude d'Israël chez Grasset. Enfin, il est temps, Bernard-Henri, à 75 ans, moi 58, donc bientôt 60. Le moment est venu de raconter...
N'allez pas trop vite.
Le moment est venu de raconter notre grand point commun avec Jean d'Ormesson. Que s'est-il passé ce fameux soir quand nous sommes allés après un dîner chanter l'International
sous les fenêtres de Jean d'Ormesson
à Neuilly-sur-Seine.
Mais surtout,
qu'est-ce qui nous est arrivé ce soir-là ?
Nous savions que le lendemain, il devait être à apostrophe chez Bernard Pivot.
Oui, c'est ça.
Nous nous imaginions que pour l'occasion, il avait décidé de se coucher de bonne heure, et nous trouvions un tout petit peu absurde, quand on était Jean d'Ormesson, c'est-à-dire un si grand écrivain, d'éprouver le besoin de se coucher de bonne heure parce qu'on passait chez Bernard Pivot le lendemain. Donc, on a décidé d'aller le réveiller.
Voilà,
et nous avions dîné dans une sorte de restaurant du bas des Champs-Élysées.
Oui, le Travelers.
Travelers, voilà. Et il y avait Marc Lambron qui était avec nous. Il y avait Ariel Dombal,
ma femme. Ils s'en souviennent tous les deux.
Ah ben, ils s'en souviennent.
C'était un dîner arrosé, mais vous ne buviez pas. Je sais pas si vous buvez de l'alcool aujourd'hui.
J'ai dû boire. Je bois très rarement.
Oui.
Je bois très rarement. Mais qui ne se souviendrait pas d'un événement si mémorable?
Je crois que c'est un événement important. Il fallait que le monde soit au courant.
Voilà.
Oui. Merci infiniment.
Là, on sait tout maintenant.
Oui, là, maintenant, tout est dit.
Tout est sur la table.
J'avais beaucoup d'autres questions à vous poser, mais évidemment, ça passe trop vite. Et il faudra revenir. Merci en tout cas d'être venu converser chez La Pérouse sur Radio Classique. Et j'espère que vos nombreux combats finiront par peser sur la marche atroce de l'univers. Merci aussi à toute l'équipe. Philippe Gault, mon producteur bien-aimé. Mathieu Roclago à la réalisation. Jérémy Bigori pour la programmation. Dans un instant sur Radio Classique, les incontournables variations de Francis Drezel. Et à la semaine prochaine, je recevrai Scholastic Mukasonga.
Conversation chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé en partenariat avec Le Figaro Magazine. Également disponible en podcast.